La mort de l'ange et la résurrection de l'ange, extrait de la suite de l'ange d'Astor Piazzolla. Piazzolla qui, on le sait, avait fait ses études avec Nadia Boulanger à Paris. C'est elle qui l'avait persuadé de se consacrer au tango. Et nous écoutions le violoniste Gidon Kremer, au bandoneon Per Arne Gorlvingen, le contrebassiste Alois Posch, le pianiste Vadim Sakharov et la Cremerata Baltica dirigée par Rolf Gupta.
France Musique, star du classique. Aurélie Moreau.
Et on sait qu'en 1981, Gidon Kremer a fondé un festival de musique de chambre en Autriche. Et en 1996, il a créé l'ensemble que nous venons d'écouter, la Cremerata Baltica. Il avoue par ailleurs volontiers que c'est sa rencontre avec Nicolaos Arnoncourt au début des années 80 qui a eu une influence considérable sur son évolution. Et ici, on le retrouve juste avant, en 1979, à la Philharmonie de Berlin. Voici la sérénade mélancolique de Tchaïkovski.
Thank you.
Sérénade mélancolique en si bémol mineur, opus 26, composée par Tchaïkovski en 1875, interprétée par Gidon Kremer avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Laurine Maazel. Et comme tous les artistes au fort tempérament et aux choix musicaux assumés, Gidon Kremer a aussi ses détracteurs. Il est évidemment salué pour sa virtuosité, mais certains lui ont reproché au fil de sa carrière une sonorité parfois austère, un peu acide, loin en tout cas du beau son classique recherché par certains mélomanes plus traditionnels. On critique aussi ses choix de répertoire jugés déroutants, voire provocateurs, son esprit frondeur également. Il a claqué la porte des grandes institutions, il a dénoncé les dérives du star system, car, dit-il tout simplement, il me paraît plus intéressant pour un artiste de poser des questions que d'apporter des réponses. Troisième mouvement du deuxième trio élégiaque opus 9 du jeune Sergueï Rachmaninov dans la version du violoniste Gidon Kremer, de la violoncelliste Guidré Dirvanos-Kaïté et du pianiste Danil Trifonov. Et c'est Karajan qui disait au sujet de Gidon Kremer qu'il était le plus grand violoniste du monde. Alors on va se quitter en les écoutant dans un monument du répertoire, troisième mouvement du concerto en ré majeur de Johannes Brahms. troisième mouvement du concerto, opus 77 de Brahms, Gidon Kremer en soliste avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Je vous remercie de votre fidélité aux stars du classique et je remercie Thomas Guinogagne et Cécile Bonnet des Claustres.
C'était Star du classique d'Aurélie Moreau. À 7h, vous retrouverez Jean-Baptiste Urbain et toute l'équipe de Musique Matin. Mais tout de suite, les grands entretiens. Bon réveil sur France Musique. France Musique, les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Jonas Vito, je suis né à Paris en 1980. Je suis pianiste.
Vous allez rentrer, passer votre bac, lycée Lamartine, tout ça, et puis entrer au CNSM. C'est
oui.
La suite logique.
Tout à fait. C'est même un peu avant de passer le bac que je rentre au CNSM, puisque c'est en 1995, j'avais une quinzaine d'années. J'avais d'abord joué pour Brigitte Engerer quelques mois auparavant, et ça avait été une rencontre assez impressionnante. Et donc... Elle m'avait pas dit grand chose, mais voilà, il y avait une présence assez intimidante aussi. Et ce qui était particulièrement, encore une fois, intimidant pour l'adolescent que j'étais, qui était pas encore débarrassé de ses problèmes de timidité, c'était que les cours étaient collectifs. Donc, toute la classe était toujours présente pendant les cours. Moi, ça me terrorisait. D'abord, j'avais l'impression que tout le monde jouait infiniment mieux que moi. Et puis, voilà, le fait d'être scruté par tout le monde, ça m'empêchait un peu de m'épanouir. J'avais l'impression que c'était très difficile d'établir une relation avec le professeur, avec tous ces regards derrière qui pouvaient juger éventuellement.
Puis du coup, de se dire, j'imagine, à chaque fois qu'on n'a pas joué aussi bien qu'on aurait pu si jamais on avait été moins entouré.
Oui, voilà, ça aussi, ça dégageait souvent une certaine frustration. Mais je comprends l'approche de Brigitte Engerer. Il s'agissait pour elle de faire comprendre aux étudiants qu'il faut aussi... écouter les autres et que l'apprentissage se fait aussi par les œuvres qu'on n'est pas en train de travailler. Donc c'était une approche intéressante et évidemment elle avait eu aussi cette approche dans ses cours à Moscou avec Neuhaus. C'était comme ça que ça se faisait, donc elle a reproduit ce système d'enseignement qui a ses avantages mais qui moi me convenait pas encore. J'ai fini par prendre l'habitude au bout de quelques années, mais au départ c'était très difficile pour moi.
Et donc, vous choisissez de présenter sa classe, de vous présenter dans sa classe.
Oui, 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 je suis rentré dans sa classe, finalement. Et donc, elle m'a aussi permis d'avoir des opportunités. Enfin, elle m'a soutenu beaucoup aussi. Elle m'a permis de faire le concerto pour deux pianos de Mozart, par exemple, avec elle. Et puis, j'avais fait aussi une fois Mamerlois avec elle, dans un concert qui était présenté par Eve Ruggieri, parce qu'elle était très amie avec Eve Ruggieri. Voilà, donc elle m'a beaucoup soutenu, je lui dois beaucoup. C'était une professeure qui n'était pas toujours très investie, c'est-à-dire qu'elle était un peu cyclotimique, elle avait des moments difficiles, sans doute liés aux frustrations, des concerts. Enfin, c'est une artiste qui était très exigeante, rarement satisfaite d'elle-même. Donc, il y avait des bons jours et des mauvais. Et parfois, en arrivant dans la salle 222 où elle enseignait au conservatoire, je sentais que c'était pas un bon jour et c'était très difficile pour moi aussi à cette époque-là d'avoir cette relation un peu discontinue avec elle, selon l'humeur dans laquelle elle allait se trouver. Parce que j'avais besoin d'un peu de stabilité, un peu plus. Pour progresser à cette époque. Donc,
c'était déstabilisant.
C'était assez déstabilisant parce que je savais pas sur quelle Brigitte j'allais tomber. Oui, c'est sûr. Mais dans les bons jours, c'était passionnant. Elle avait, et puis quand elle se mettait au piano, c'était ce qui était le plus impressionnant et le plus inspirant parce qu'elle avait là encore un legato absolument magnifique, une main gauche remarquable dans Chopin. Enfin, tous les exemples qu'elle donnait au piano, c'était extraordinairement inspirant.
Oui, elle avait un son assez extraordinaire.
Il y avait des choses qui me gênaient dans son style, mais le son était superbe. Et ça, c'est resté certainement une influence forte sur mon jeu.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris ? Parce que voilà, vous arrivez là à 15 ans, vous avez déjà eu des profs antérieurs. C'est à nouveau une femme, c'est drôle, parce que vous avez eu beaucoup de professeurs femmes.
Oui, c'est vrai.
Et qu'est-ce que vous retenez peut-être d'elle, qui disparaît en 2012 ? Mais est-ce que c'est un répertoire ? Est-ce que c'est justement, quand on parlait du chant, de conduire une mélodie, un sens de l'architecture ? Qu'est-ce qu'elle vous a légué peut-être de plus saillant pour vous ?
Ben d'abord, oui, en effet, une connaissance d'un certain répertoire, le répertoire russe. Elle m'a fait découvrir beaucoup Tchaïkovski. J'ai découvert notamment la grande sonate en sol majeur que j'ai fini par enregistrer bien plus tard. Voilà, le goût pour le répertoire russe, certainement. Et puis, elle avait un sens poétique assez développé. Elle faisait des belles analogies. Enfin, c'était vraiment une musicienne qui se basait sur l'intuition. Elle analysait assez peu. Mais voilà, elle avait des intuitions très profondes et très, très puissantes, très inspirantes. Et parfois, une seule image pouvait débloquer complètement l'imaginaire parce que c'était plus rapide que d'expliquer, je ne sais pas, en des termes musicaux. Donc, elle avait souvent recours à des métaphores qui fonctionnaient très bien, qui étaient très inspirantes.
Et est-ce que, parce que c'est quand même, dans vos professeurs, j'ai l'impression un peu la première qui arrive... Et qui est une artiste en pleine carrière, c'est différent aussi ça quand on est élève, d'avoir un professeur qui est aussi sur scène, c'est autre chose.
Ce qui a changé aussi, c'était justement le fait qu'elle se mettait beaucoup au piano. J'avais pas l'habitude de cette disposition avec deux pianos au conservatoire, on avait vraiment des salles avec deux pianos, et un des pianos était pour le professeur qui donnait beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc ça, avec Chantal Fraisse ou Marie-Joseph Truisse, il n'y avait pas eu. Donc vraiment l'expérience de l'artiste direct et sa connaissance et sa compréhension des œuvres qui m'éclaire sur le moment par ses exemples. Donc ça, c'était aussi quelque chose de très important et de différent. Et le fait de pouvoir profiter de son expérience directe des œuvres et du fait qu'elle les a jouées de nombreuses fois en concert, ça a été en effet très important.
Et la voir sur scène ?
Et je l'ai vue sur scène, notamment, elle avait un répertoire relativement limité, mais elle jouait magnifiquement les œuvres qu'elle jouait. Donc elle jouait énormément le premier concerto de Tchaïkovski, énormément le concerto de Schumann, énormément les tableaux d'une exposition, mais elle jouait les œuvres qu'elle jouait magnifiquement.
Et quand vous entrez au CNSM, là, vous rencontrez plein de camarades qui, comme vous, sont passionnés, qui peut-être, comme vous aussi, sont assez timides pour certains d'entre eux et préfèrent s'exprimer avec leur art que peut-être par leurs mots. C'est l'occasion, ça, d'une nouvelle sociabilisation.
Oui, bien sûr, ça a été aussi les moments où j'ai commencé à prendre des contacts, en effet, à jouer plus souvent en musique de chambre, pas seulement en quatre mains, donc, ou pas seulement avec des chanteurs, mais à développer donc des relations, en effet, musicales et amicales. À cette époque-là, ça a débuté, en effet, et c'est souvent même à cette époque-là du CNSM que j'ai établi des socialisations, des amitiés qui ont perduré même jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le trio Cérès que j'ai formé un peu plus tard, je crois que c'est en 2007, donc c'est bien après ma sortie du CNSM, c'était déjà des gens avec lesquels j'avais travaillé un peu à cette époque du CNSM, que j'avais rencontré à cette époque-là. Donc il y a énormément de choses qui se sont construites à cette époque-là, en effet. Thank you.
Et puis, il y a plein de cours et plein de professeurs, parce qu'évidemment, vous entrez dans la classe de piano de Brigitte Engerer, mais il y a d'autres professeurs qui vont être, je crois, très importants pour vous.
Oui, tout à fait. Justement, pour ce qui est des cours de musique de chambre, j'ai profité de l'enseignement de Pierre-Laurent Aymard, qui était passionnant, très différent de celui de Brigitte Engerer, beaucoup plus analytique. Lui, vraiment, passait très peu par les métaphores et rentrait dans le cœur de la structure et de la compréhension analytique des œuvres. Il passait aussi parfois par des médiations, par des comparaisons ou par d'autres arts, justement, la peinture, pour faire comprendre certaines choses. Donc c'était un enseignement très différent, mais extraordinairement dense. J'en ai eu pour des mois pour assimiler tout ça.
Et puis Christian Ivaldi aussi ?
Oui, ça c'est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien l'opéra aussi, vraiment. Donc lui, il adorait faire des analogies avec l'opéra. Quand on jouait du Mozart, par exemple, tout de suite, il avait une référence avec un opéra de Mozart, dont le caractère correspondait avec un personnage, par exemple. C'était quelqu'un d'une grande culture qui est aussi à ce rapport peut-être de déchiffreur. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup découvert de musique, lui aussi, qui a beaucoup déchiffré, qui a... peut-être ce même rapport à la musique que moi, cette boulimie et cet amour du chant et de l'opéra.
Et ça, ce sont des choses que vous avez aussi pris le temps de développer. Je veux dire, quand on est dans ces années-là au conservatoire, on attend tellement de votre pratique musicale et où il y a un vrai travail, je veux dire, qui consomme tout bêtement énormément d'heures et d'énergie, hein, de monter des répertoires, de travailler pour différentes échéances, etc. Est-ce que on arrive à insérer dedans aussi du temps pour lire des grands romans russes, par exemple, que Brigitte Engerer pourrait peut-être évoquer, ou aller voir des toiles diverses et variées? Est-ce que c'est un temps qu'on prend aussi comme un temps essentiel?
Ben, je l'ai pris plus tard, ce temps-là. À vrai dire, à l'époque, c'était quand même difficile de concilier le lycée, les heures aménagées, la préparation du bac, les cours du CNSM qui étaient très riches, entre la musique de chambre, le piano, l'initiation à la direction d'orchestre, les cours d'harmonie. Donc j'avais relativement peu de temps pour vraiment approfondir ma culture générale et lire les Dostoïevski, etc. Ça, c'est venu plus tard.
Quand vous parlez des cours d'harmonie, c'était Jean-Claude Reynaud ?
Oui, tout à fait. C'était un professeur... de la vieille école, on va dire. Il laissait vraiment chaque élève en écriture faire son chemin sans trop le briser, enfin sans trop gêner sa progression, disons, comme toute une école française. Je pense à des gens comme Fauré, avait un peu cet enseignement-là, c'est-à-dire où on essaye vraiment d'encourager l'innovation et la personnalité de l'élève,
de faire fleurir
et de pas trop bloquer avec une approche trop dogmatique.
Vous parlez de Taciturne et de Less is More, je pense aussi à Aldo Ciccolini.
Oui, tout à fait, c'est un peu la même personnalité. Enfin, il y a des points communs, tout à fait. J'avais fait, grâce à la Fondation Natexis, plusieurs stages avec des grandes personnalités. Ça a été Jean-Claude Pentier et ça a été aussi Aldo Ciccolini, qui en effet était quelqu'un qui parlait très très peu. Il parlait des musiciens avec lesquels il avait travaillé, Elisabeth Schwarzkopf. Il nous racontait les concerts qu'il avait marqués de Rachmaninoff. C'est quand même quelque chose d'avoir quelqu'un qui a entendu Rachmaninoff. Donc c'était déjà une histoire en tant que telle, sa vie. Et c'était déjà un enseignement très riche qui nous raconte tout ça. Mais pendant les cours, il intervenait très très peu, il disait très peu de choses. Mais à la fin d'un des stages, organisé donc par cette Natexis, j'avais joué la fantaisie de Schubert avec lui. Lui faisait le thème. Dodo, do, fa, do. C'est lui qui faisait le thème, oui, c'est ça.
France Musique, les grands entretiens de Jonas Vitaux.
Vous avez dit qu'à un moment, c'était, vous aviez pris un peu le taureau par les cornes de vaincre cette timidité et de se dire « il faut que j'apprenne à m'adresser aux autres et de prendre des cours de direction d'orchestre ».
Oui.
Je crois que c'est Jean-Sébastien Béraud.
Oui, tout à fait.
Qui est une figure qu'on, voilà, dont on connaît peut-être souvent pas le nom et qui pourtant, je crois, est importante et inspirante. Et là aussi, quelqu'un de très cultivé avec une grande culture livresque.
Oui, oui, c'est vraiment quelqu'un de très pénétrant, très, très intéressant, qui a beaucoup côtoyé Bernstein, qui travaillait, je crois, les 10 dernières années comme assistant de Bernstein, ou dans les années 70, enfin, je ne sais plus exactement. Mais voilà, il a connu des personnalités incroyables comme ça, et il avait une capacité, moi, qui m'a beaucoup marqué, d'analyser les partitions. Enfin, toutes ces analyses de partitions m'ont été extrêmement profitables pour comprendre mieux comment analyser, justement. Je me souviens qu'on avait travaillé Siegfried Idyll et la façon dont il avait de comprendre comment les thèmes s'enchevêtraient et dérivaient les uns des autres, ça m'a énormément éclairé. Et donc c'est ça qui m'impressionnait le plus dans son cours. Mais il était aussi assez intimidant, et donc j'avais l'impression là aussi d'être assez mauvais quand je dirigeais. Parce que bon, j'étais aussi peut-être un peu trop jeune, j'ai commencé à 15 ans dans les cours d'initiation à la direction d'orchestre. Donc j'avais peut-être encore un manque de connaissances musicales et j'aurais peut-être dû faire cette classe un tout petit peu plus tard.
Oui, jamais trop tard, hein.
Oui, oui, non, mais j'aime toujours la direction. J'ai pu faire des projets aussi avec Chang. J'avais dirigé un petit peu Schoenberg, le Pierrot Lunaire. J'ai pu diriger les poèmes de la lyrie japonaise, par exemple, de Stravinsky. J'avais fait aussi du piano les 3 poèmes de Stéphane Mallarmé, de Ravel. Et puis, j'aime bien diriger aussi dans le cadre de concertos de Mozart. Je fais ça de temps en temps. Ou de Beethoven, quand, par exemple, je fais le 4e concerto avec un ensemble comme de musique de chambre réduite, par exemple, quintette avec contrebasse ou quintette à 2 violoncelles et 2 altos, c'est aussi l'occasion que j'ai de diriger. J'aime bien faire ça, mais c'est pas facile d'avoir des occasions dans d'autres cadres de diriger. Mais c'est quelque chose qui m'attire toujours et j'espère toujours, notamment dans le jouer dirigé, avoir des occasions plus fréquentes peut-être de diriger.
Et il y a un autre professeur dont on n'a pas encore parlé qui, je crois, a eu une influence importante aussi, c'est Jean Körner.
Oui, et ben Jean Körner, c'était la classe d'accompagnement au piano, mais qui est une classe très très complète, qui regroupe un petit peu toutes les classes qu'on a au CNSM. C'est-à-dire qu'il est question d'harmonisation au clavier, il est question de direction finalement, puisqu'on fait de la réduction d'orchestre, de la réduction de chœur, du déchiffrage avec chanteur, déchiffrage avec instrument, déchiffrage seul, transposition, évidemment, au ton, à la tierce, au demi-ton, tout ça. Et puis du piano d'orchestre, de la musique contemporaine. Enfin bref, c'est une classe extrêmement riche et extrêmement complète qui synthétise beaucoup, beaucoup de connaissances différentes. Et moi, ce qui m'avait fasciné avant tout dans cette classe, c'était sa capacité de réduire l'orchestre.
À vue.
À vue, oui. Ça, c'était vraiment très impressionnant. Et la capacité à suggérer des solutions pour... Il faut toujours faire des choix dans la réduction d'orchestre. Évidemment, on peut pas tout réduire. Donc, sa capacité à sélectionner les motifs qui sont les plus importants pour perdre le moins possible de la richesse de la partition d'orchestre et retranscrire le plus possible... Tout ça, avec des décisions à la minute, tout ça, ça m'avait énormément impressionné.
Qui est très bon lecteur, habitué à déchiffrer depuis les premiers temps.
Oui, c'est ça.
Je trouve que c'est intéressant aussi de vous entendre nous parler de cette première fois avec une partition, parce que j'ai l'impression que dans une première lecture, évidemment l'intuition a sa place, mais peut-être que des choses se mettent en place, même quasiment des premiers guides en fait d'interprétation. Enfin, cette première lecture-là, elle est unique, quoi. Ça paraît idiot de le dire, mais je crois que quand on a des capacités de déchiffrage conséquentes, c'est un socle quasiment. Peut-être.
Oui, c'est aussi un moment où, en effet, l'intuition joue à plein et fait déjà entrevoir des choses qui sont comprises déjà un petit peu avant d'être conscientisées. Et c'est ce qui inspire le plus et qui va vraiment donner un petit peu la dynamique pour tout le travail qui va suivre. Donc, il y a déjà souvent une forme de compréhension de l'œuvre qui se joue là. Et puis, il y a aussi des choses qui échappent et qui doivent après être retravaillées pour être comprises. Mais c'est le moment le plus excitant du rapport à l'œuvre. C'est cette première étape. C'est ce moment où on déchiffre. C'est un moment extrêmement excitant, en effet. Ouais.
Il y a une forme de pressentiment de l'interprétation.
Exactement, c'est ça. Oui, oui. Ce pressentiment-là, c'est le moment fort, comme une rencontre entre deux personnes, où on a ce pressentiment d'un amour, par exemple, je ne sais pas, qui va, en effet, irriguer tout le travail ultérieur.
Et aussi, d'une méthode de travail ?
Surtout, une fois qu'on a terminé ce déchiffrage, on prend conscience de ce qu'il faudra faire, de quels sont les enjeux de l'interprétation, les difficultés principales. On cerne un petit peu ce qui va être le détail du travail, en effet.
Et si on parle du travail, il y a ce travail qui va se faire à l'instrument, mais il y a aussi une grande part pour vous de travail à la table, ou même sans la table, en marchant, je ne sais pas, mais sans instrument.
Oui, bah ça c'est souvent quelque chose qui va intervenir plus tard dans l'interprétation. On peut avoir une intuition en marchant, en pensant à l'œuvre, voilà, ça, la transition, ça va être plus intéressant si je fais comme ça, si je ralentis telle note plutôt que telle autre. Et c'est des choses qui peuvent venir à l'esprit sans forcément y penser, sans qu'il y ait une volonté de travailler. C'est juste des choses qui sont comme de l'ordre du déclic, qui prennent sens, quoi. Où l'œuvre nous vient à l'esprit et révèle son sens en quelque sorte d'elle-même sans qu'on ait forcément demandé. Mais voilà, quelque chose qui va se débloquer, qui va permettre une meilleure interprétation d'un passage ou une plus belle couleur sur un autre.
Et qu'il y a aussi quand même un travail d'écoute intérieure de la partition. Là, j'allais dire pas malgré soi, pour être pas tout d'un coup quelque chose qui vous apparaît comme une pensée involontaire, mais un travail tout à fait conscient, je le disais tout à l'heure, presque à la table, mais d'écouter aussi intérieurement la partition, c'est une manière d'approfondir aussi.
Oui, bien sûr. Moi, je pense que l'écoute intérieure, elle est très importante. Elle doit se faire toujours dans une relation de dialectique avec l'écoute externe, c'est-à-dire il y a toujours un décalage entre ce qu'on imagine et ce qui va sortir, parce que chaque piano est différent, et puis on doit s'adapter aux conditions matérielles précises d'une situation, une salle avec une réverbération précise, un instrument qui nous plaît ou qui nous plaît pas. Mais donc il y a toujours un décalage entre cette imagination, entre ce qu'on a dans la tête, et puis l'adaptation sur le moment aux situations précises. De l'instrument et de la salle. Donc,
Du son effectivement produit.
Voilà, c'est ça. Il faut passer de l'un à l'autre, je pense, constamment, mais on ne peut pas faire l'économie d'avoir d'abord fait ce travail d'imagination et d'entendre intérieurement. C'est très, très important. Évidemment, c'est une évidence pour les compositeurs, mais chez les interprètes, c'est peut-être parfois oublié et c'est extrêmement important aussi.
Et ce delta, il est douloureux?
Bah, il peut être douloureux parce que évidemment le résultat est souvent inférieur à l'imagination, ça c'est certain. Donc toute la frustration qu'on accumule est aussi une matière de perfectionnement, c'est-à-dire que il y a toujours un décalage et il faut accepter cette frustration permanente, mais elle est aussi un moteur pour continuer à progresser, pour essayer de s'approcher de cet idéal.
Vous êtes un juge difficile avec vous-même ?
Oui, je suis un juge assez difficile avec moi-même. Je suis très rarement satisfait, oui.
C'est sur ces variations sur un thème de Schubert de Denisov par Victor-Julien Laferrière et Jonas Vito que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec Jonas Vito. Une série proposée par Judith Chen, réalisée par Adrien Roch et disponible sur l'application Radio France.
Ma première année à Paris a été vraiment de tâtonnement. Et puis après, j'ai entendu du Messiaen et d'après ce qu'on a raconté au conservatoire, la curiosité a été très forte. Parce que à ce moment-là, sa réputation parmi les autres élèves, c'est un fou, on ne sait pas trop ce qu'il fait, etc. J'ai dit autant aller voir le fou que les autres, parce qu'il sera certainement plus intéressant.
Pierre Boulez, une vie sur le ring. Tout savoir sur une compositrice ou un compositeur, sa vie, son œuvre, en 5 épisodes. Les sagas musicales de France Musique, à retrouver sur le site et l'appli Radio France.
Tous les samedis à 13h, je vous invite dans Ciné Tempo, une promenade musicale au cœur du cinéma. Venez déambuler avec moi dans le monde des musiques de films et rejoignez Ciné Tempo par Thierry Jousse. C'est tous les samedis de 13h à 14h et c'est sur France Musique et francemusique.fr.
Une émission en partenariat avec Positif. Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous pour ces 2 heures de réveil en musique et nous sommes le mercredi 18 juin 2025 avec dans notre éphéméride musicale aujourd'hui un anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 83 ans. C'est l'un, sinon le compositeur le plus connu, le plus aimé, le plus populaire. Mais de qui s'agit-il selon vous ?
Thank you.
Yesterday, bien sûr, cette chanson créditée McCartney-Lennon, mais uniquement composée par Paul McCartney. 83 ans aujourd'hui, version étonnante qui devient une sorte de ballade un peu japonaise, Satoru Kakemitsu, qu'on doit cette... En arrangement pour la guitare interprété par Karoy Muraji. Nous sommes le mercredi 18 juin 2025. Côté météo, peu de changements. Aujourd'hui, le pays reste sous l'influence du puissant anticyclone qui est arrivé. Les quelques nuages bas le long de la Manche et sur le nord de la Bretagne en début de journée disparaissent rapidement ailleurs. Un grand soleil et des températures qui, ce matin, déjà grappillent quelques degrés, comprises entre 13 et 17 degrés, 10 à 12 de la Bretagne à la Picardie et déjà 20 degrés sur le littoral de la Méditerranée. Et sur la Corse. Très bon réveil. Vous écoutez France Musique, il est 7h. C'est l'heure des premières informations avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. L'Iran doit capituler sans condition. Donald Trump ne fait pas dans la demi-mesure. Il